Bonsoir. Nous sommes particulièrement heureux de recevoir ce soir Jean Clair dans un Bordeaux qui brille de tous ses feux juste après l'averse. Merci à vous d'être venu, d'avoir bravé l'ondée. Et nous allons avoir le plaisir d'échanger avec Jean Clair autour de ses deux derniers ouvrages. D'une part, Dialogue avec les morts, paru aux éditions Gallimard, et très peu de temps auparavant, quelques jours auparavant, L'hiver de la culture, aux éditions Flammarion, collection Café Voltaire. Je dois dire que personnellement, je suis très attentif et très impatient de lire chaque fois Jean Clair, car il est un auteur qui permet toujours de découvrir ce qu'on n'attend pas, et sur un ton de liberté et avec une extrême probité. Sa parole est absolument libre. Et l'exercice de l'écriture est pour lui quelque chose qui n'est certainement pas vide. C'est quelque chose qui comporte des enjeux essentiels. Et ma première question va porter sur le titre de ce volume qui n'est pas tout à fait un volume de journal, mais qui comporte aussi quelques petits chapitres avec des titres qui constituent presque des petits essais à eux seuls. Donc je voudrais lui poser ma première question sur ce titre, Dialogue avec les morts. Et Gallimard a rajouté un bandeau, et la beauté. Et il me semble effectivement que l'écriture de Jean Clair est à la fois un dialogue d'une part avec certains morts, mais aussi avec la beauté de certaines œuvres d'art. Alors, ce titre, pourquoi ce titre ?
Oui, vous posez la question d'emblée la plus difficile ou la plus délicate, à la mesure où le titre, c'est ce qu'on trouve en dernier. On écrit d'abord le livre. On essaie d'abord d'écrire quelque chose qu'on ne sait même pas être un livre, qui sont des fragments qui viennent, que l'on essaie d'assembler de la façon la plus cohérente possible. Puis une fois que tout ça est assemblé, qu'on a essayé de trouver un fil directeur, un fil rouge, on essaie enfin de trouver un titre qui ramasse sous son libellé, sous son intitulé, non pas l'ambition, mais l'anxiété profonde qui a pu faire que pendant des mois et des mois, on a aligné bout à bout ces fragments, ces lignes, ces paragraphes, qui finalement prennent à un certain moment, comme une sauce qui prend, qui à un certain moment prennent une consistance, prennent forme, prennent saveur. Et à ce moment-là, peut-être on peut essayer de trouver un titre. Alors, bon, je ne sais pas d'esquiver votre question. Dialogue avec les morts, avec le sous-titre et la beauté. D'une façon très ambitieuse, sur un mode très ambitieux qui n'était pas le mien, ce serait évidemment vouloir dire que la seule réponse que l'homme a trouvée à la mort, c'était le tombeau, et si possible un tombeau ordonné selon des principes, des règles, des normes, des symétries ou des figures qui relèvent de ce que nous appelons aujourd'hui la beauté. Enfin, en disant cela, j'ai l'impression, dans le meilleur des cas, d'évoquer Panofsky et son art des tombeaux, et sur un mode peut-être un peu plus, j'allais dire frivole, mais ce serait très méchant, Malraux et sa vision héroïsée d'un art qui est la seule réponse que l'homme aurait trouvée à sa finitude.
Lazare.
Lazare, voilà. Alors Lazare, effectivement, que je cite comme étant le plus beau livre que sans doute que Malraux a écrit, et c'est un témoignage au moment où il allait, à quelques mois de sa disparition, mais il se sent brusquement renaître, revivre, sortir du tombeau, et à nouveau c'est un chant d'amour et de reconnaissance à ce qui a au fond guidé toute sa vie, qui est la beauté. Hein. Qu'est-ce que c'est que la beauté ? C'est une question évidemment que je me suis posée, étant de par ma profession, mais quelle est ma profession, j'en sais pas, j'en sais rien non plus vraiment. Enfin, disons, en gros, il paraît sous un autre nom, et comme c'est sur ma carte d'identité, conservateur de musée, conservateur du patrimoine, conservateur des collections de l'État. Donc quelqu'un chargé de garder, de préserver, de faire connaître éventuellement, et de temps en temps d'enrichir, c'est plus compliqué, quelque chose qu'on appelle des œuvres d'art. Donc, mais enfin, qu'est-ce que c'est que la beauté ? La question est plus que jamais posée aujourd'hui. Et après 40 ans au service des musées de l'État, je me la pose plus que jamais, particulièrement face à la façon qu'à notre époque, de beaucoup plus que d'humilier la beauté, comme disait Rimbaud, humilier la beauté, la façon, cette façon frivole, funambulesque, de la traiter et de la maltraiter, bien sûr, au point que écrire sur un bandeau et la beauté apparaît désormais presque comme une provocation. Mais la provocation n'existe qu'aussi longtemps qu'on n'a pas compris ce que c'était que la mort, c'est-à-dire la disparition irrémédiable et sans secours, sans appel, de gens que l'on a aimés en particulier, c'est à travers eux que l'idée de la mort a pu se faire, pas à travers la sienne. Vous connaissez la boutade de Marcel Duchamp, qui est très profonde. D'ailleurs, ce sont toujours les autres qui meurent. On ne se voit pas mourir soi-même. Donc voilà, en gros, c'était ça. C'était arriver à un certain moment de la... Enfin, je parle trop, mais arriver à un certain moment dans l'existence, lorsque précisément les soucis professionnels vous ont enfin abandonné, arriver à un moment où le loisir est beaucoup plus grand qu'avant, le moment où on se dit qu'après tout, on ne se souviendra peut-être pas toujours de ce que l'on se souvient encore aujourd'hui, le besoin non pas de faire le bilan. Le bilan est un côté comptable qui n'est pas du tout dans mon esprit, mais plutôt d'une réflexion, alors qu'on appelle ça mémoire, souvenir, journal, peu importe. En tout cas, ces souvenirs, ces journaux, c'est toujours des dialogues. C'est des dialogues avec des gens, avec tous les gens que l'on a rencontrés dans sa vie, pas tous, ceux qui ont compté, parmi lesquels on se rencontre avec un certain effroi que la plupart ont déjà disparu. Et parmi ceux qui ont disparu, un certain nombre qui ont eu affaire beaucoup plus directement que moi, qui n'a fait que gérer la beauté, mais eux ont eu à la créer, des peintres, des sculpteurs, des écrivains, dont je parle peu dans ce livre, mais enfin, j'en ai parlé ailleurs. Et qu'est-ce que c'est que ce dialogue qui s'élabore après la disparition, dans le silence absolu de la mort, et qui pourtant est un dialogue aussi vivant, aussi frappant, aussi prenant. Donc voilà, donc, l'idée de ce dialogue est née, l'idée d'intituler ce livre finalement Dialogue a été l'espèce de fil conducteur qui m'a permis de rassembler ensuite, sous une forme à peu près belle, si j'ose dire, ordonnée, des fragments extrêmement épars, des bouts de papier extrêmement, presque des papiers collés, si vous voulez, que j'ai rassemblés, aussi avec l'idée que... Mais ça, c'est une idée qui vous vient vraiment à une certaine extrémité de la vie. Vous pensez à l'autre extrémité, vous vous dites comment est-ce que... Bon, quelle a été mon enfance ? D'où est-ce que je viens ? Enfin, non pas cette espèce de lieu commun qui aujourd'hui traverse une certaine littérature contemporaine. Qui fut mon papa ? Qui fut ma maman ? Alors on obtient des tas de romans, il y en a, tous les jours il y en a un qui sort. Sur les souvenirs de... Mais bon, c'était pas tellement ça, c'est dire au fond, j'ai appartenu à un certain... Je suis sorti d'un certain milieu. C'est étonnant, au fond. Très étonnant, parce qu'il a totalement disparu. Je veux dire, par là, le milieu rural, le milieu des petits paysans pauvres, d'un côté de l'ouest de la France, d'un autre côté de la Bourgogne, la Bourgogne pauvre. Et bon, ce monde-là a totalement disparu. Bon, lorsque j'en faisais partie... C'était 54-55% de la population française. Et ce sont eux qui nourrissaient les Français. Aujourd'hui, c'est 2%, 3%. Ils ne s'appellent plus d'ailleurs paysans, ne s'appellent plus non plus cultivateurs, ils s'appellent producteurs. Producteurs de lait, producteurs de trucs, exactement comme d'autres producteurs dans l'économie productiviste d'aujourd'hui. Donc c'est un massacre absolument épouvantable, enfin un massacre, oui, d'une classe sociale qui a été essentielle à la culture française dans tous les sens du terme, et en même temps un massacre du point de vue de la culture des idées, du point de vue d'une certaine vie française. Avec évidemment l'écueil dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai peut-être attendu si longtemps avant d'écrire ces pages, de dire « Ah oui, c'est ça, oui, votre côté fasciste caché, crypto-fasciste, la terre ne ment pas, la terre elle est morte, d'ailleurs vous parlez de mort dans votre titre ». Alors évidemment, bon, ça vous tombe dessus, vous n'avez pas du tout pensé à ça, mais ça vous tombe dessus. Évidemment, vous êtes tout de suite, une fois de plus, renvoyé à des origines d'extrême, je ne sais pas quoi, oui, droite, alors que, bon, on n'y pensait même pas. Qu'évidemment, l'idée de la Terre ne ment pas, ça a pris un sens très particulier très longtemps après. Donc voilà, tout ça, j'avais besoin d'éclaircir tout ça, de le dire aussi longtemps que je m'en souvenais, et voilà, c'est arrivé, voilà comment ça s'est fait.
Alors en effet, il s'agit de dialogues, pas forcément avec des personnes, mais avec des mondes. Et votre premier chapitre est magnifique, justement, sur ce monde de la ruralité, à la limite du département de la Mayenne et de la Sarthe. Et vous analysez à la fois en quoi consistait ce monde de ces fermes du bocage, isolées, avec une pièce qui, une belle pièce qui était quasiment fermée, avec les volets fermés, qui était la plus belle pièce de la maison, et dont vous dites qu'au fond, ça a été pour vous un premier schème, en quelque sorte, de ce que pouvait être une œuvre. Une œuvre avec une valeur de rareté. D'autre part, dans un volume précédent de votre journal qui s'intitulait La tourterelle et le chat-huant, vous aviez déjà engagé ce dialogue avec le monde de votre père d'une part, le monde de la tourterelle, du Morvan, et d'autre part le monde de votre mère, le monde des chouans, hein, de la Mayenne. Et ce qui est remarquable, c'est que pour vous, les œuvres d'art sont aussi une voie d'accès à des mondes. Et vous le dites d'abord à partir d'une première rencontre par un instituteur d'une classe primaire qui avait épinglé au mur deux reproductions de tableaux, un tableau de Braque et un tableau de Matisse. Et vous dites que ça a été pour vous la première rencontre, en quelque sorte, à travers des reproductions, de ce que pouvait être le monde de l'art.
Oui, c'est un souvenir assez que il faut s'imaginer la chose. C'était en 1946-1947, donc dans une France encore terriblement marquée évidemment par la guerre, les bombardements, la misère. Hein. C'était gris, c'était sale, c'était noir, c'était... Et c'était pas l'instituteur, c'était maître professeur de dessin, si vous voulez, tout jeune, garçon tout jeune, qui n'avait pas pu acheter des reproductions, bien sûr, c'était beaucoup trop cher à l'époque. Puis Brown n'existait pas encore. Mais il avait fait lui-même chez lui, il avait copié à l'aquarelle un petit tableau de Braque et un petit tableau de Matisse. Il avait affiché sur le tableau, noir à l'époque, pas vert, noir, pour que nous puissions les copier. Et j'avoue que ces deux tableaux fabriqués, enfin copiés eux-mêmes par le maître, on avait parlé de maître, ça a été, moi j'utilise même le terme religieux d'annonciation, une espèce d'annonciation, c'est-à-dire un ange qui dégringole du haut du ciel avec sa lumière, avec ses plumes, au milieu d'une salle de classe, sale, noire, froide, bon, une annonciation. Et puis c'est vrai que ça a déclenché quelque chose. De ce point de vue-là, peut-être il faut un facteur déclenchant, comme disent les psychanalystes ou les psychiatres, pour que les choses se passent. Et ce facteur, il joue sur quoi ? Je ne sais pas sur quoi, rien ne m'avait préparé à ça. Alors il se peut effectivement qu'en dehors de la... C'est très difficile de parler de ça. Mais enfin bon, on doit sans doute avoir parfois une vision plus aiguisée que d'autres, comme d'autres ont une oreille absolue, comme d'autres... je sais pas, enfin bref, en tout cas, mais ça suffit pas, cette espèce de terrain biologique, si je puis dire. Il faut aussi qu'il y ait un facteur déclenchant. Le facteur déclenchant, ça a été ça. Je me suis dit, au fond, c'est extraordinaire. Enfin, je ne me suis pas dit, c'est extraordinaire. J'ai été frappé, c'est tout point. C'est seulement longtemps après que je me suis dit, tiens, c'est quand même très extraordinaire. Pourquoi est-ce que cette espèce de nature morte de braque et un pichet en pichet, vu en vision cubiste, alors l'ouverture du pichet bascule à 90 degrés. Et surtout le paysage de Matisse avec des violets extraordinaires. C'est longtemps après que j'ai appris que le violet dans la peinture était apparu très très tard, avec la découverte de l'aniline, mais très très longtemps après. Donc c'est une teinte dans la palette des peintres, le violet est une teinte extraordinairement récente et rare. Bon, Matisse en l'utilisait dans un paysage vert et orangé, et cette union du vert, de l'oranger, de l'indigo, ou du violet, de l'aniline, faisait une chose très étonnante qui m'est restée comme ça dans la tête. Et j'ai retrouvé ce tableau très très longtemps après, à Stockholm, où il se trouve, au Moderna Museet. Il avait été acheté par quelqu'un qui devait devenir mon ami longtemps après. Et donc il y a là quelque chose qui se passe qui n'est pas de l'ordre de la rationalité, qui n'est pas de l'ordre de l'enfant au milieu du système éducatif. Non, tout ça, c'est des foutaises actuelles. Mais il y a eu là, en tout cas, quelque chose qui s'est passé entre un maître qui avait pour lui le don d'enseigner ou le don de passer, et puis un petit gamin qui, peut-être, était un peu plus vif que les autres sur le plan de la vision, tout en étant idiot sur beaucoup d'autres plans. Donc voilà, mais c'est intéressant.
Il y avait donc une parole. Il y avait une parole et un désir, certainement, aussi.
Il y avait une parole et un désir. C'est vrai que la parole accompagnait. C'était pas seulement le fait de punaiser les toiles. Il y avait l'autorité du maître derrière qui parlait avec suffisamment de chaleur, j'imagine, de ces choses pour qu'on les considère avec... pas comme ça, pas de façon frivole.
Alors, vous dites que la parole n'était pas votre façon de vous exprimer, que vous n'êtes pas un homme qui aime parler. Vous dites que la parole, c'est souvent une forme d'autorité qui impose quelque chose, qui ordonne, et que vous préférez écrire, par exemple, ou regarder. En tout cas, et que donc les arts silencieux, les arts plastiques, justement, vous ont peut-être davantage convenu parce qu'ils permettent une certaine dimension de silence qui permet justement un échange. Alors, un échange, c'est vous qui, en quelque sorte, allez dialoguer, en quelque sorte, aussi avec l'œuvre. Et alors, il y a, vous donner un autre exemple, une autre circonstance qui va vous intriguer, c'est la rencontre avec une psychanalyste. Puisqu'à un moment donné, vous avez un comportement d'adolescent qui suscite quelques petites inquiétudes. On vous adresse à une psychologue et qui pense bien faire en vous adressant elle-même à une psychanalyste. Et cette psychanalyste va être pour vous une rencontre importante, d'abord. Vous parlez de la psychanalyse avec gratitude, si je puis dire, et avec comme une voie d'accès à la pensée, à la connaissance. Et d'autre part, il se trouve que face au divan de la psychanalyste ou dans son salon d'attente, il y avait là encore deux tableaux qui étaient présents. Et vous dites que c'est la première fois que vous avez vu des œuvres en quelque sorte originales affichées dans un domicile particulier.
Oui.
Alors je voudrais vous demander de parler un petit peu de cette psychanalyste. Vous dites qu'elle était juive et ouais. Vous dites aussi qu'à plusieurs reprises, vous utilisez une métaphore à votre propos et vous vous comparez vous-même à un marane. Et j'aimerais que cette piste, donc vous la précisiez. D'abord cette psychanalyste.
Oui, c'est un vaste, vaste sujet. Le rapport au mot, d'abord, qui est vraiment vécu comme une souffrance. Si on est dans un milieu, bon, on ne parle pas. La parole est un privilège qui était à l'époque, après la guerre. Aujourd'hui, ça a changé. parce qu'il y a la radio et la télévision. Bon. Privilège accordé aux gens qui savent parler, messieurs. C'est rare, les gens qui savent parler. Non, il y a des milieux où on ne parle pas. Pas seulement le milieu paysan, mais les milieux... Bon, on ne parle pas. Parler, c'est vraiment utiliser des mots dont vous n'avez pas, que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Ça ne vous appartient pas. Et dans à un certain moment, plusieurs fois dans ce livre aussi, je reviens sur ces groupuscules de gothique, par exemple, dont le vocabulaire me stupéfie, parce que c'est un vocabulaire terriblement limité à 300 mots, 400 mots, à une syntaxe incroyablement pauvre. Donc on est tout près du mutisme que j'avais connu dans mon enfance, et en même temps, c'est exactement le contraire, parce que le mutisme de mon enfance ne se rompait que pour des choses importantes, pour la nourriture, ou pour les animaux. On parlait aux animaux, alors qu'on ne parlait pas à ses voisins, mais on parlait aux animaux. Ou alors le dimanche à la messe, on parlait directement à Dieu, ce qui est encore une chose assez étonnante. Bon, enfin bref. En tout cas, bon, c'est ce milieu-là qui était le mien, un milieu de grand silence, de grand mutisme, qui a fait qu'à l'école, je ne parlais jamais, je ne prenais jamais la parole. Je ne prenais pas la parole. La prise de parole des gens de 68, ça m'a toujours semblé une espèce de gaminerie. Hein. Bon, hein, bref, passons. Toujours est-il que... Prise de parole. Bon, je n'ai jamais pris la parole. Simplement, il est arrivé à un moment où... Enfermé dans ce mutisme, aggravé peut-être par ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'amour des objets, le monde silencieux des objets, qui à la limite est un amour morbide, c'est-à-dire c'est vouloir préférer la compagnie des choses à la compagnie des êtres vivants. C'est à la limite vouloir être dans une espèce de cimetière d'objets plutôt que de sortir dans la rue et de parler à des gens. Donc c'est à la limite de la pathologie. Et à ce moment-là, bon, effectivement, peut-être la psychanalyse joue un rôle. Alors là, en l'occurrence, bon, j'ai éprouvé le besoin de raconter cette histoire très intime. Je pense que la façon dont elle est racontée ne relève pas de l'impudeur. Je ne cite aucun nom, d'ailleurs, bien évidemment. Et j'ai éprouvé le besoin de la raconter au moment même où la psychanalyse, en France particulièrement, est la cible de plus en plus fréquente, non seulement de certains penseurs, mais aussi couramment dans la presse quotidienne, pratiquement, ou hebdomadaire, sans arrêt, on fait de l'ironie sur la psychanalyse. Bon, moi, j'ai aucune envie de faire de l'ironie sur la psychanalyse, étant entendu qu'il y a beaucoup de psychanalystes qui sont nuls. Mais enfin, on n'est pas obligé d'aller voir un psychanalyste nul. Il y a aussi des psychanalystes de très grande valeur, très grande qualité. Et ceux-là, effectivement, sont des gens qui, infiniment précieux, qui vous libèrent, et, par la parole, précisément. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, effectivement, bon. C'est pas pour rien, tout de même, en évoquant ces attaques virulentes aujourd'hui contre la psychanalyse, qui, moi, m'effraie. C'est pas pour rien, tout de même, que l'enseignement et la pratique de la psychanalyse ont été interdites, verboten, dans deux pays, évidemment dans l'Allemagne hitlérienne et dans la Russie stalinienne. La psychanalyse est une force coruscante, une force corrodante, une force critique extraordinairement vive si elle est pratiquée comme elle doit l'être, avec une rigueur à la fois morale et intellectuelle qui peut-être aujourd'hui se trouve effectivement plus rarement qu'autrefois. À l'époque où moi j'ai été sujet à la psychanalyse, sujet de la psychanalyse, analysant comme on disait, c'était dans les années 54-55. C'est-à-dire, c'était le moment où la psychanalyse entrait en France à travers des gens profondément convaincus de son utilité. Et c'était le moment aussi, bon, je ne sais pas si c'était des détails, mais c'était un détail intéressant, où les hôpitaux publics, où l'assistance publique commençait d'ouvrir des consultations infantiles à des psychanalystes, ce qui est une chose très étonnante. C'est-à-dire qu'il y avait des consultations de psychanalystes à l'intérieur même des hôpitaux, 54-55. Donc, si vous voulez, sans le savoir, j'ai fait partie d'une espèce d'expérience première qui peut-être a mal tourné aujourd'hui, mais en tout cas qui était extrêmement, me semble-t-il, extrêmement importante. Et alors, après, il y a eu Lacan, tout ce que vous voulez, toutes les déviations possibles. Mais moi, ce que j'ai connu de la psychanalyse, c'était au contraire une rigueur morale et intellectuelle extraordinaire, et qui m'a permis effectivement une certaine agilité mentale, pas seulement, il y a aussi l'usage des mots, la permission de parler, qui peut-être serait très très utile aujourd'hui quand je vois effectivement ces gamins de 16-18 ans dont le vocabulaire se réduit à 300 mots et la syntaxe à rien du tout. Aggravé évidemment par un système éducatif qui méprise la parole et qui méprise la grammaire et qui méprise les règles. Après tout, je dirais que je suis très heureux aujourd'hui d'être à l'Académie française, puisqu'une partie de mon temps chaque semaine, c'est de travailler, c'est de consacrer 3 heures tous les jeudis matins à cette tâche éminemment futile, semble-t-il, éminemment importante, je crois, qui est de faire le dictionnaire, de travailler sur les mots du dictionnaire et sur les sens qui ont varié des mots du dictionnaire. C'est une chose magnifique, superbe, très étonnante.
Et justement, ce rapport à la langue, pour vous, est très important. Et la langue, vous venez de le dire déjà, la langue, au fond, ce sont des formes complexes, et ce sont des formes qui permettent de penser le réel, et de le connaître, et de le découvrir, et de l'éclaircir aussi. Bien, et la langue, c'est au fond une forme de... une forme de forme. Les formes vous intéressent, finalement. Les formes vous intéressent, et dans les formes, il y a quelque chose qui dure, qui se répète. Vous citez aussi une phrase de Paul Valéry dans Tel quel, à propos de ce rapport, justement, entre ce qui dure, ce qui se répète, et le concept de forme. Et au contraire, vous exprimez des inquiétudes à l'égard de l'informe, justement. Alors, j'aimerais savoir comment, finalement, ce goût des formes, petit à petit, a pris consistance chez vous.
C'est d'une part, si vous voulez, il y a un côté, il y a un versant esthétique et il y a un versant plus théologique, si je puis dire, si j'ose dire. Alors, le versant esthétique, c'est relativement facile quand on a commerce avec ses proches, avec ses voisins, avec ses frères humains, il faut y mettre les formes, comme on dit. Il faut y mettre les formes. On en a actuellement un exemple assez tragique. Il faut y mettre les formes. Tout peut se faire, tout peut se dire, mais il faut y mettre les formes. Bon. En latin, forma et formosa, c'est la même origine, c'est la même racine. La forme et la beauté, c'est la même chose. Il n'existe pas de beauté en dehors de la forme. Forma, formosa. Bon, ça c'est une chose. Mais surtout, d'un point de vue philosophique, mais vous êtes plus à même que moi de parler de ça, c'est que je ne sais plus quel grand philosophe, je ne sais plus si c'est Nietzsche ou disait au fond, c'est pas Nietzsche parce que je me souviens plus très bien de la citation exacte qu'en gros disant qui dit au fond, je crois en Dieu parce que je crois dans la grammaire.
C'est Nietzsche.
C'est Nietzsche.
C'est Nietzsche.
Je crois en Dieu parce que je crois dans la grammaire. Et la phrase est extraordinairement profonde. C'est-à-dire, s'il existe une... Lacan l'a repris à sa façon. On ne peut pas penser en dehors de... Il y a une logique de l'inconscient qui fait que utiliser les mots, c'est véritablement faire venir l'être. Et cet être ne vient pas n'importe comment. Il y a donc une espèce de structure de la pensée qui ne peut se traduire que par une structure linguistique, verbale, qui passe par les mots et donc par une forme. Là, c'est une chose assez vertigineuse, et dans l'espèce de dissolution informe de du baragouin actuel étendu aux médias radio-télévisuels, on peut voir une espèce de déclin terrifiant de la, qui touche aux racines même de la pensée, c'est-à-dire à l'impuissance même, l'incapacité désormais de pouvoir penser le monde. Et alors là, est-ce que c'est de la philosophie? Est-ce que c'est de l'ontologie ou est-ce que c'est de l'esthétique? Pour moi, c'est les deux choses à la fois. C'est à la fois de l'ontologie et de l'esthétique. La forme est nécessairement signification. Et pour qu'il y ait signification, il faut qu'il y ait forme. Donc, c'est quelque chose comme ça. Mais je suis frappé, évidemment, lorsque je... Bon, je ne vais pas paraître pédant. Comment dire, le dialogue avec les morts, c'est aussi le fait que vous avez ce miracle qui fait que quand vous tirez de votre bibliothèque un bouquin écrit par tel ou tel grand nom des siècles passés, vous commencez à le lire et vous entendez une voix. Et cette voix qui s'est tue physiquement depuis 200 ans, 300 ans, même parfois 500 ans, 600 ans, même plus. Si vous lisez Homère, brusquement, cette voix, vous l'entendez. Vous l'entendez et surtout, vous comprenez ce qu'elle veut dire et vous en faites plus qu'entendre et que comprendre. Il y a une petite musique intérieure qui commence à jaillir. Et là, il y a une espèce de miracle qui relève là aussi de la théologie autant que de l'esthétique. Alors là, c'est quelque chose de très étonnant. C'est le vrai dialogue avec les morts parce qu'il passe à travers les siècles, à travers les années, les siècles et même les millénaires. Et est-ce qu'on est dans l'œuvre d'art? Oui, on est dans l'œuvre d'art, parce que, par l'Homère, l'Odyssée, c'est une œuvre d'art, mais c'est bien plus que ça aussi. Donc voilà. Et je trouve que, bon, aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans cette direction-là.
Il y a un très beau texte dans Ainsi parlait Zarathoustra qui s'appelle Lire et écrire, et qui met justement l'accent sur l'importance et de l'écrire, d'une part, dans sa solitude, avec le temps que ça peut prendre, et aussi l'acte de lire, aussi dans un certain silence. Et c'est à travers ces deux silences, le silence de celui qui écrit et le silence de celui qui lit, qu'effectivement la voix passe et l'écoute. Alors ce que je trouve aussi remarquable dans votre livre, c'est que ce dialogue, c'est un véritable dialogue, c'est-à-dire que les personnes disparues, sans qu'il y ait rien de mystique, si je puis dire, ou de fantastique là-dedans, mais les personnes disparues engagent un véritable dialogue avec vous, vous parlent en quelque sorte. Il y a un chapitre assez étonnant, je trouve, à propos du rêve. Et vous parlez du rêve en indiquant que vous avez appris en quelque sorte à faire usage du rêve et en quelque sorte à favoriser en vous endormant une matière de rêve ou un processus du rêve et qui au réveil en quelque sorte vous donne alors je dis pas des réponses ponctuelles, ça serait ridicule, mais en tout cas il y a un retour en quelque sorte, et ça je trouve ça assez étonnant. Est-ce que vous pourriez en parler?
Oui, en tout cas c'est pas du spiritisme. C'est pas de l'occultisme, c'est pas des tables tournantes.
Du tout.
Je ne fais pas tourner mon lit, ni même mon oreiller. Au contraire, je suis profondément enfoui dedans, et profondément content et très... Mais c'est vrai que... il y a un romantique, je ne sais plus lequel, qui avait écrit un livre qui s'appelle « De l'art de diriger ses rêves ». Et je ne sais plus qui c'est. Un romantique mineur, mais important. Et l'art de diriger ses rêves, c'est pas Novalis, non. Non, Novalis a beaucoup écrit sur le rêve, mais là, c'est un poète beaucoup plus mineur que Novalis. C'est presque un manuel technique, c'est pas la clé des songes, mais c'est vraiment de dire, au fond, quand vous rêvez, vous pouvez, si vous avez un peu d'expérience, vous pouvez diriger les rêves que vous avez. C'est-à-dire que vous êtes dans cette espèce de zone qui n'est ni de la conscience ni de la conscience, mais entre les deux, vous flottez et vous pouvez, au fond, solliciter, susciter, provoquer. Alors il y a effectivement cette zone qu'on appelle indécise, qu'on appelle hypnagogique, juste avant de plonger dans le sommeil profond, qui fait que vous avez des images qui circulent. Et ces images, vous pouvez effectivement, d'une certaine façon, les diriger, les provoquer, les changer. Mais vous pouvez aller plus loin avec un peu d'expérience et faire en sorte que ces images de figures, d'êtres, qui défilent, vous pouvez les fixer, en les fixant, les imaginer ce qu'elles peuvent dire. Et puis il arrive un moment où on tombe dans le sommeil, et dans le sommeil, la même personne va continuer d'être là, et va continuer spontanément de parler, alors même que vous n'avez plus conscience d'être là. Donc là, il y a une espèce de phénomène très bizarre où les frontières entre la veille et le sommeil s'abolissent d'une certaine façon. Ça marche pas à tous les coups, mais de temps en temps ça marche. C'est très étonnant parce qu'à ce moment-là, on voit véritablement que le rêve, que rêver et revoir, c'est vraiment la même chose. Que le rêve est le domaine des revenants, effectivement, mais des revenants pacifiques, pas des revenants inquiétants. Et là, c'est vrai que Freud a eu raison de dire, au fond, le temps, l'inconscient est sans temps, ça est lost, l'inconscient n'a pas de temps. Vous pouvez revoir aujourd'hui des gens que vous n'avez pas vus depuis 30 ans. Et le rêve va vous les redonner exactement tels qu'ils étaient il y a 30 ans. Alors qu'à l'état conscient, vous ne pourrez jamais, évidemment, obtenir cette espèce d'hallucination bénéfique qui vous les fait revoir et avec qui vous pouvez dialoguer. Mais on est à la limite, là, effectivement, d'une pensée parapsychologique, métapsychologique plutôt.
Et alors ce dialogue, vous le reprenez aussi avec des personnes disparues, et disparues depuis longtemps. Par exemple, votre père. Et visiblement, vous aviez une vingtaine d'années quand votre père est mort, et vous dites vous avez toujours éprouvé un regret que votre père soit mort à ce moment-là et que vous ne lui ayez pas donné en quelque sorte davantage satisfaction à ce moment-là de votre vie et que au fond vous voudriez racheter en quelque sorte ceci et entamer à nouveau, enfin plutôt entamer pour la première fois peut-être d'ailleurs un dialogue avec lui. Et ça, c'est assez magnifique, je trouve.
Je ne sais pas, parce qu'en même temps, je crois que c'est une expérience qui est tellement commune à, je dirais pas tous les individus, mais en tout cas beaucoup, 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 qui font que les rapports entre le père et le fils sont toujours totalement à côté de la plaque, si je puis dire. Et le fils se rend compte de ce qu'était le père toujours 20 ans trop tard. Donc il y a une espèce de chagrin infini du fils vis-à-vis du père. Je parle pas de moi, on en a des centaines d'exemples dans la littérature et dans la vie de tous les jours. Qui vous confie le rapport au père, le fait qu'il est mort trop tôt, qu'il n'a jamais su qu'il n'a jamais pu voir. Bon, et puis voilà, en dehors du fait même qu'il y a tout de même une rivalité mortelle entre le père et le fils, qui fait que c'est vrai que le fils a toujours envie de tuer le père. Et parfois, il le fait. Donc, lorsque le père n'est plus là, il y a des phénomènes extrêmement douloureux qui se passent. Même si tout cela est de l'ordre d'une fantasme, mais le fantasme a une grande réalité. Donc voilà, bon, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ces choses tellement communes, tellement fréquentes, tellement banales... Si l'on en parle, il faut réussir à en parler, comment dire, en captant l'intérêt du lecteur et sans trop l'ennuyer. Et c'est là qu'intervient, la seule possibilité qui vous donne l'excuse d'écrire, c'est le style. Je crois qu'il faut vraiment, travailler le style, la phrase. Le rythme, le choix des mots, l'emplacement des virgules, le souffle. Et à ce moment-là, quelque chose apparaît, survient, qui n'est plus du tout de l'ordre de la confection, qui n'est plus du tout de l'ordre de la confidence intime, mais qui prend sa propre réalité d'objet, de beauté.
Et alors, vous écrivez quelques pages également sur le fait que, quand vous avez commencé à écrire, vous avez préféré... prendre un pseudonyme plutôt que de prendre le nom de votre père. Et vous le situez dans l'époque, d'ailleurs. Hein, vous réfléchissez sur ce qu'étaient à ce moment-là les raisons de ce choix, et notamment de ce pseudonyme de Jean Clerc. Est-ce que vous pourriez en parler ?
Oui, c'est une question assez difficile, mais je donne toujours une réponse, qui est une échappatoire, qui est de dire, bon, à partir du moment où j'étais fonctionnaire de l'État, j'étais soumis à un devoir de réserve, et donc un pseudonyme me permettait de dénoncer le soir ce que j'avais fait la journée. En quelque sorte. C'est vrai, mais ça n'est vrai que des pamphlets, ça n'est vrai que des critiques, ça n'est vrai que d'une activité ou une pamphlétaire. Ça n'est pas vrai des écrits impersonnels, intimes, où j'aurais très bien pu garder le nom du père, mais bon, là-dessus aussi on a tellement écrit que c'est presque extrêmement compliqué. Mais
vous dites aussi que à ce moment-là, vous considériez comme un petit peu ridicule de rechercher une sorte d'identité en pensant finalement que l'écriture était une sorte de puzzle un peu qui empruntait de très nombreux éléments et qu'une sorte de modestie finalement vous engagez en quelque sorte à cette parole au fond modeste.
Oui, certainement, le besoin de... Très compliqué d'éprouver, je sais pas, très compliqué. J'aurais pu garder mon patronyme, qui est un très beau nom, de vieille extras, comme on dit. Et...
Vous en parlez aussi, d'ailleurs.
Oui, j'en parle aussi, parce qu'évidemment, c'est un... On peut très bien savoir d'où ça vient, bon, ce que ça signifie aussi. Bon, c'est un beau nom qui a été porté par des grands écrivains, donc j'aurais pu le garder, après tout. Et non, au fond, le besoin était d'être, si j'ose dire, transparent, de ne pas être là, écrire en l'absence. Tout comme, d'une certaine façon, j'ai... Si je vous pose la question, comment vous me voyez ? Comme un historien d'art ? Comme un philosophe ? Comme un conservateur de musée ? Comme un fonctionnaire de l'État ? Comme un écrivain, peut-être ? La dernière question, je la poserai avec... beaucoup d'hésitation. Et pourtant, mes plus grands amis, les plus proches, n'ont pas été ni des historiens d'art, ni des conservateurs, ni des administrateurs, ça a été des écrivains. C'est eux qui sont venus me chercher, c'est pas moi qui... Bon. Donc il y a une espèce là, si vous voulez, de reconnaissance humaine, qui est aussi un problème de nomination, un problème d'appellation, un problème de... non seulement de titre, mais de nom. Là, le fait de si j'ose dire, la vocation, au sens propre. Qui m'appelle ? Et comment t'appelles-tu ? C'est très compliqué. Mais en même temps, c'est bien, parce que dans une époque, dans un moment où, comment dire, de laisser aller... dans le domaine littéraire en particulier, mais dans le domaine... de la vie quotidienne, les espèces d'absence de pudeur et de... le tout à l'égout, enfin, tout y va, tout à l'égout étant l'Internet. Ou bien vous vous laissez entraîner dans ce flux interminable et nauséabond de plus en plus épais, ou bien vous restez sur les marges. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Si vous publiez un livre, par exemple, pour prendre un exemple très, très concret, votre éditeur, quel qu'il soit, va vous dire, mais il faut que tu ailles sur le plateau d'un tel qui t'invite. Vous n'avez aucune envie d'aller sur le plateau d'un tel, même si c'est un tel. Qu'est-ce qu'on irait faire sur cette espèce de cirque, sur le plateau de ce cirque vulgaire et grossier sur lequel se sont laissés prendre de grands philosophes ou de grands hommes politiques, qui sortent de là la queue basse, n'ayant pas pu placer un mot. Donc, mais en même temps, c'est très propre à notre époque. Cette tentation-là, vraiment, d'être sur les tréteaux, les battleurs, elle est très très forte, parce qu'elle conditionne, bien évidemment, la vente. Enfin, je ne crois pas, d'ailleurs. Mais enfin, on dit qu'elle conditionne la vente des livres. Je dis ça ici, dans une librairie éminemment choisisseuse, et éminemment pratiquant la distinction. Mais bon, donc, qu'est-ce que vous faites ? Dites à M. Taddeï, non, je suis désolé, je suis souffrant, je ne peux pas. Parce que lui, il ne va jamais comprendre que vous ne veniez pas. Jamais. Donc, pour lui, c'est évident. C'est évident que c'est lui le maître du jeu. C'est pas. Vous n'êtes là que pour le servir. Donc on est dans une société de la transparence, effectivement, totale, mais ce n'est pas la transparence que moi, je voulais assumer en ayant un pseudonyme transparent. C'est une autre transparence qui fait que tout vaut tout est égal à tout. Et vous voyez, l'intime, le secret, la partie cachée, l'absconditus n'existe plus. Vous êtes totalement livré, en pâture. Donc, il vaut mieux effectivement s'avancer masqué.
Dans votre livre, il y a aussi de très belles pages sur le visage. Et à travers à la fois la rencontre de certaines personnes et aussi à travers certains artistes, certains peintres notamment, vous citez aussi une sorte de passage de relais, par exemple, entre Monet, Bonnard, Balthus, Lucian Freud.
Oui.
Et visiblement, le rapport au visage est quelque chose de très important pour vous. Je suppose à la fois dans la vie, mais aussi par rapport aux œuvres d'art. D'ailleurs, je vais faire une petite incise ici. Il y a aussi des pages assez fortes, je trouve, sur le rapport entre le visage, et notamment le visage féminin, et le sexe féminin aussi. Vous le tous, Et bon, je pense que là, on est au cœur de choses très importantes ici, dans ce lien au visage. Et peut-être que je vais commencer à parler de l'art contemporain un petit peu, mais il me semble que souvent, ce qui vous agace ou vous irrite dans certaines formes d'art contemporain, c'est une forme de déshumanisation et justement d'élimination du visage.
Oui, vaste problème là aussi, vaste sujet. Le dévisagement, oui, la désinvolture a joué sur les mots. Si on veut voir dans désinvolture le contraire de du santo volto à l'italienne, du saint visage, du saint vult, la désinvolture, c'est le refus de voir dans le visage le volto, la face, qui est l'image même de la divinité. Sur l'homme, dans l'homme. Alors bon, sans remonter aux circonstances, toutes les procédures de déshumanisation, de dévisagement ou de désinvolture dont la culture occidentale, pour ne pas dire chrétienne, a été la proie depuis la Première Guerre, depuis les charniers de la Première Guerre. C'est vrai qu'il y a une espèce de détournement de la volonté de représenter le visage chez à peu près tous les peintres, sauf quelques-uns qui osent encore, qui ont encore le courage de l'affronter, mais si j'ose dire, totalement désarmés. Parce que dans les siècles passés, vous affrontiez le visage armé de tout un appareil technique, théorique, qui faisait que vous construisiez un visage à partir de paramètres scientifiques, optiques ou autres. Vous ne vous avanciez pas comme ça spontanément. Ça, vous aviez toutes les petites... Bon. Vous étiez soutenu par tout un contexte, mais aussi tout un appareillage, oui, technique, esthétique. Bon. Aujourd'hui, vous avancez à nu. Vous avancez à nu sans aucune théorie, sans aucune idéologie, sans aucun appareillage. Et vous, en plus de ça, si vous y croyez un petit peu, comme les expressionnistes, vous imaginez que spontanément, comme ça, vous allez pouvoir saisir la vérité, l'unité, l'unicité, la particularité d'un visage. C'est évidemment pas possible. Donc il y a une expérience là, à nouveau intersubjective, tellement puissante que vous vous effondrez, vous n'y arrivez pas. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que... Je suis en train d'écrire là-dessus, donc c'est peut-être un peu prématuré d'en parler, mais c'est qu'il y a eu tout de même, effectivement, dans cette espèce de déroute universel du visage, qu'on peut rapprocher bien évidemment, mais c'est trop facile, des procédures de dévisagement pratiquées par les régimes totalitaires, non seulement dans la forme extrême des camps de concentration, mais dans la forme quotidienne, banale, ordinaire, des procédures judiciaires ou autres qui font que vous perdez votre visage, vous perdez votre identité. Tout ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, quand même des quelques artistes assez rares qui ont obstinément voulu garder la présence du visage. Et Dieu sait avec quelle difficulté, quelle peine, quelle angoisse. Alors, l'exemple que je cite toujours, qui finit par être très très connu, c'est Giacometti, qui a 25 ans, 30 ans, est très attiré par Breton. Et puis à un certain moment, les jeux surréalistes et le titillement érotique de certaines pratiques surréalistes l'agacent, finissent par l'agacer. Et il décide de retourner tout seul à l'étude et à la pratique du visage, avec énormément de difficultés, parce qu'il se rend compte qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas à dessiner un visage, il n'arrive pas à sculpter un visage. C'est un objet à la fois extraordinairement proche, face à face, vis-à-vis. Et en même temps, ce vis-à-vis, ce face-à-face, est intolérable. Il n'arrive pas à saisir ce qui se passe. Donc, il y a tout ça. Et lorsque Breton apprend que Giacometti retourne au portrait, vous connaissez sa réflexion, enfin, une tête, on sait bien ce que c'est qu'une tête. Précisément, c'est une tête, c'est ce dont on ne sait rien. C'est une tête, c'est précisément la grande partie obscure de l'individu. Alors bon, on peut essayer de rationaliser tout ça plus tard. Pourquoi est-ce que les surréalistes, par exemple, en dehors même de ce mépris du visage, ont-ils élu comme héros de leur mythologie ou de leur bestiaire un personnage qui s'appelle l'acéphale chez Bataille, c'est-à-dire un corps sans visage, un corps décapité? Il y a là toute une histoire de l'art moderne et contemporain qui reste à écrire. Et voilà, sur lequel je travaille actuellement, un petit peu. Mais l'histoire de Monet, là, c'est une histoire qui mérite peut-être d'être en deux mots racontée. C'est Bonnard qui, dans sa petite maison de Vernonnet, à côté de Rouen, sur les bords de la Seine, il a 24 ans, 25 ans à l'époque, voit à un certain moment s'encadrer dans la porte une silhouette majestueuse d'un monsieur avec une grande barbe fleurie, blanche, massif, c'est Monet. Monet qui venait en voisin, puisque Monet était à Giverny, à quelques kilomètres de Vernonnet. Et Monet voulait voir qui était ce jeune confrère qui s'appelait Bonnard, qui avait 25 ans, qui travaillait, dont il aimait les tableaux, dont il aimait la peinture. Bon. Et puis, on passe une quinzaine d'années, ou même plus, 20 ans, un peu plus. Et là, c'est Balthus qui est en train de monter sa première exposition à Paris. Il a une trentaine d'années chez Druet, et à un moment, il voit entrer dans la galerie Druet quelqu'un qui est Pierre Bonnard, qui avait 50, 55 ans, 60 ans à l'époque, et qui vient lui dire « Écoutez, j'aime beaucoup ce que vous faites ». Il reconnaît Balthus comme un peintre, et il vient l'aider à accrocher sa première exposition. Une dizaine d'années plus tard encore, c'est un peintre qui s'appelle Lucian Freud qui vient s'établir rue des Beaux-Arts à l'Hôtel des Beaux-Arts pour quelques temps, pour travailler, mais aussi parce que Balthus habite au passage de Rohan à 350 mètres de l'Hôtel des Beaux-Arts et qu'il n'a qu'une envie. Freud a 25 ans à l'époque, c'est de rencontrer Balthus et de lui dire qu'il aime beaucoup ce qu'il fait, d'obtenir de lui quelques aides. C'est aussi la même époque où Picasso demande à rencontrer Balthus. Il se rencontre au quai des Grands Augustins, pas très loin de là. Bon, donc ces rencontres-là, vous imaginez, un peu vertigineuses, Monet, Bonnard, Balthus, Freud, Picasso, ça, qui tourne autour du problème du visage aussi, écrivent en pointillé une histoire de l'art moderne et contemporain qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire qu'on vous enseigne dans les écoles ou dans les universités. Cézanne, le cubisme, l'abstraction, badati patata, oui d'accord, en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe. De la même façon qu'un visage, c'est un visage, c'est pas réducteur à un système, Et alors actuellement, il y a une espèce effectivement de désarroi énorme, mais qui est pareil à celui de la définition du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet? Comment est-ce qu'on peut... Bon, l'espèce de déroute, c'est au philosophe là que je m'adresse, la déroute du sujet dans la littérature des années 60 et 70, c'est un peu la même chose que la déroute du portrait dans l'art de la peinture un peu auparavant.
Vous citez aussi quelques sculpteurs aussi.
Oui, parce que sur les sculpteurs pèse une espèce d'interdit beaucoup plus fort que sur les peintres. Les peintres fabriquent des images qui n'ont pas de réalité. C'est des ombres. Alors que les sculpteurs, eux, font des images taillées. Et l'interdit mosaïque et islamique de la représentation porte sur les images taillées, pas sur les images plates qui sont des ombres, des fantômes. Donc les peintres, à la limite, ils sont à l'abri, si vous voulez. Les sculpteurs, non, eux, ils sont vraiment en compétition avec le Tout-Puissant. Et je crois qu'ils le, d'une certaine façon, ils le savent. Oui, ils le savent, ils le sentent. Donc les passions et les drames chez les sculpteurs sont beaucoup plus violents que chez les peintres. Aussi parce qu'ils scoltinent la matière. Donc effectivement... L'amitié que j'ai pu avoir avec certains sculpteurs a été plus importante peut-être, plus significative que celle que j'ai pu avoir avec des peintres.
Et dans l'hiver de la culture, alors l'hiver de la culture a un sujet qui est relativement ciblé. Et bon, d'abord il y a le mot hiver, hein, c'est une mauvaise saison, enfin c'est une saison froide, hein, ouais. C'est une saison... un peu problématique, d'autant plus que y a un chapitre dans lequel vous parlez de l'histoire du mot culte, de la culture, ouais. Etc. Bon. Et, bon, alors, mais au fond, ce que vous en prenez à certaines impostures de l'art contemporain et à des impostures qui sont très organisées, qui sont très bien organisées. Et qui fonctionne. Et il faut dire que à la fin, vous dédiez ce livre aux artistes qui ont été en quelque sorte victimes de ces phénomènes et qui en quelque sorte n'ont pas été ou ont souffert en tout cas d'un déficit de reconnaissance à cause justement de ces phénomènes d'intimidation de certains pouvoirs médiatiques et aussi d'ailleurs financiers, parce que ce sont très souvent des opérations financières. Vous utilisez même le terme de titrisation. Et donc j'aimerais que vous présentiez un petit peu. Alors, d'un autre côté, je pense que vous n'êtes pas du tout... on ne peut pas vous accuser d'incuriosité à l'égard de l'art qui se fait maintenant, absolument pas. Mais justement, vous avez un regard qui est lucide et vous ne voulez simplement pas qu'on vous fasse prendre des vessies pour des lanternes.
Oui, là aussi la question est immense. Deux remarques. Une remarque d'abord, c'est que cette attaque, oui, cette critique, concerne plus particulièrement la situation en France. Elle ne concerne pas, par exemple, la situation aux États-Unis, bizarrement. Parce qu'aux États-Unis, en Amérique, les musées, qui sont publics, mais qui sont souvent gérés par des fonds privés, enfin, alimentés par des fonds privés et gérés par des sociétés privées de trustees, ont, grâce à cette hétérogénéité des fonds et des trustees, une capacité de choisir dans la production artistique qui se fait en ce moment dans des domaines extrêmement différents. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, selon que vous serez à New York au MoMA, qui a une certaine tradition d'achat, une certaine esthétique dans les achats, que vous serez au Hirshhorn à Washington, que vous serez à Los Angeles ou à San Francisco, vous aurez de l'art contemporain des visions totalement différentes. Ce qui veut dire qu'il y a une ouverture face à la complexité, à la diversité de l'art contemporain, une ouverture beaucoup plus grande aux États-Unis que vous ne l'avez en France, où vous avez finalement, pour résumer très grossièrement, un art d'État qui n'est acheté et qui n'est entretenu que par des fonctionnaires d'État. Donc ça aboutit à une espèce de d'uniformité consternante. Et plus encore lorsque, alors là, mais ça serait trop compliqué, trop long d'expliquer la façon dont tout ça s'est construit, bâti. Intervient le phénomène de la, effectivement, de ce que j'appelle la titrisation, et au fond un art de traders vendant des biens qui n'existent pas, vendant des choses qui n'existent pas, des choses qui ont un prix mais qui n'ont pas de valeur. Alors là, c'est un système maintenant parfaitement rodé et qui fait que, c'est pas très intéressant de parler de ça, mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de... Bon, je sais plus.
Non, mais ça nous concerne puisque nous sommes en France. Et simplement, Marc Maroli avait abordé ces questions dans son livre sur l'état culturel. Bon,
oui.
Et au fond, vous continuez dans cette perspective. Mais de l'autre côté.
C'est lui qui a continué, pardon.
Bon.
Mais considération oui, pardon. Sur l'état des beaux-arts, c'est 4 ans, 5 ans l'état culturel.
Oui.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Oui. Non, pardon, c'est pas un signe de vanité, c'est simplement une question de chronologie.
Et d'autre part, vous citez par exemple une institution qui se trouve à Bâle, le Schaulager.
Oui.
Et c'est extrêmement intéressant d'apprendre au fond comment ce système fonctionne, comment il y a d'une part cet entrepôt dans lequel sont choisis un certain nombre d'artistes et d'œuvres, entre guillemets, qui ensuite vont être plus ou moins exposés ensuite à la foire de Bâle, etc. Ouais. Et comment il y a un système donc qui se met en place et puis qui ensuite qui va bénéficier de lieux d'exposition prestigieux, de grands musées du patrimoine comme le Louvre ou Château de Versailles, etc. Et donc là, vous entrez dans le détail au fond de certains processus. Alors bon, effectivement, vous avez raison, dans le monde anglo-saxon, il y a une beaucoup plus grande variété, il n'y a peut-être pas ce phénomène d'intimidation étatique, en définitive, oui. Ce qui fait peut-être qu'il y a aussi un public plus curieux et plus large, en définitive. Mais enfin, je trouve que c'est intéressant que vous nous donniez à connaître ces fonctionnements-là.
Étant entendu, évidemment, que la majorité les personnages les plus importants de ce marché sont américains. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est trop une grande galerie américaine qui...
On peut en rester là. Merci.
Merci à vous.